ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Eh ben on y est à la radio, Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz, c'est le printemps, les petits oiseaux sont là, les fleurs aussi, et la lune elle est cachée, mais bientôt vous l'aurez dans vos oreilles. Radio Pleine Lune, comme tous les mercredis, avec d'ici quelques secondes les nouvelles des informels, suivies par un memento, le menu des rendez-vous avec notre chère Marjolaine. Un peu de musique et les nouvelles.
La propriété se le voit, tout le peuple, all the power to the people.
Sur Radio Pleine Lune, nos nouvelles. Algérie, les femmes se mobilisent contre l'intégrisme qui assassine. Ces gens nous imposent leur morale par la force et cela se passe sous le regard passif de la police, écrivait en avril 1990, il y a 4 ans bientôt de ça, des étudiantes de la cité universitaire de Blida dénonçant des milices de barbus, je cite, dont certains sont armés de couteaux qui patrouillaient à l'entrée du campus. La terreur est installée et la mort nous guette, répète aujourd'hui en un terrible écho les étudiantes et enseignantes de l'Université d'Alger dans un message récemment adressé au chef de l'État. Décrivant le climat de menaces et d'intimidation qui règne dans l'enceinte universitaire, elle s'étonne en termes presque identiques de la présence de groupes armés bénéficiant d'une impunité locale. Hier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont clamé leur condamnation du terrorisme et leur rejet de tout dialogue avec le fils lors d'un rassemblement à Alger. Les manifestants et manifestantes répondaient à l'appel d'organisations féminines. Une grève générale a été observée pour les mêmes raisons dans les banques et les principales usines à travers tout le pays à l'appel de différents syndicats. Au cri d'intégrisme assassin, plus de 20 000 personnes ont défilé dans la capitale algérienne, défiant le mot d'ordre des islamistes enjoignant aux femmes de porter la longue tenue islamique pour cacher leur corps, les manifestantes présentes en force étaient maquillées et habillées à l'occidentale. Bangladesh, une femme écrivaine condamnée à mort. Pour avoir écrit un roman racontant l'histoire d'une famille hindoue persécutée au Bangladesh, Taslima Nasrin est sous la coupe d'une fatwa lancée en septembre dernier par un groupe fondamentaliste musulman. Le Bangladesh n'est pas épargné par le fondamentalisme. Bien que ce pays se soit doté de lois contre les tribunaux islamiques et leurs fatwas, les condamnations à mort, des dizaines de milliers de femmes sont victimes des sentences rendues par les mollahs. L'écrivaine Taslima Nasrin, qui lutte en faveur de l'égalité des sexes et des confessions religieuses, est condamnée à mort pour avoir écrit un roman, Laïa, la honte, qui raconte l'histoire d'une famille hindoue du Bangladesh persécutée après la destruction en Inde de la mosquée d'Ayodhya en décembre 92. Sous la pression des fondamentalistes, le gouvernement retire le livre de la vente après que celui-ci eut déjà été vendu à 50 000 exemplaires. Le 16 septembre, lors d'un prêche à la mosquée de Dhaka, la capitale du Bangladesh, 10 000 fondamentalistes musulmans demandent la tête de celle qui se bat pour que son pays devienne un véritable État laïque. Le gouvernement, à la tête duquel se trouve d'ailleurs une femme, le premier ministre Khaleda Zia, se montre conciliant vis-à-vis des fondamentalistes. Pire, il ne vient pas en aide à Taslima Nasrin. En janvier dernier, il lui confisque son passeport. Dans son propre pays, l'écrivaine ne peut même plus apparaître dans les lieux publics. Ce n'est que grâce à des pressions occidentales que les autorités lui ont accordé une protection policière, mais à contre-cœur. Malgré la sentence de mort, Taslima Nasrin est déterminée à poursuivre sa lutte contre l'intolérance. « Aucune fatwa, aucune persécution ne peut ébranler mes convictions. Je m'oppose à toute discrimination, qu'elle soit fondée sur la religion, la race ou le sexe », déclare-t-elle. Ce combat sera toujours le sien et elle est prête à y laisser sa vie. Un jeune garçon dont les parents voulaient le marier comme c'est la coutume en Inde. Elle lui avait choisi pour épouse une fillette de 14 ans, apportant en dot une voiture de 100 000 roupies. Ce jeune Indien s'est révolté. Il veut finir ses études avant de fonder une famille. La loi indienne lui donne raison. Elle interdit le mariage au-dessous de 18 ans pour les filles et de 21 ans pour les garçons. Mais cette législation n'est guère respectée, du moins dans les villages où 90% des fillettes se marient avant 13 ans. Allemagne, une jeune musulmane de 16 ans a été frappée de 6 coups de couteau dans le dos par son frère de 17 ans parce qu'elle avait pour petit ami un bosniaque non musulman. Ce drame s'est passé à Mülheim en Allemagne dans une famille libanaise de demandeurs d'asile. Jugeant que son jeune âge le protégeait aux yeux de la loi, le conseil familial a désigné le fils cadet pour perpétrer ce crime. Frère et père ont été arrêtés. Grande-Bretagne, une nourrice gagne le droit d'user de châtiments corporels envers les enfants. C'est parce qu'elle avait refusé de signer un papier du conseil municipal de Sutton qui lui interdisait de donner une claque aux enfants sous sa garde qu'Anne Davis, une nourrice britannique, avait perdu son statut professionnel. Trois mois plus tard, sa victoire historique devant la Haute Cour de justice de Londres s'est transformée en un véritable débat national. Les hauts magistrats ont en effet statué qu'elle, je cite, qu'elle avait toute latitude pour faire montre d'autorité auprès des enfants récalcitrants à condition d'avoir l'accord des parents. Du coup, après avoir mis des mois à abandonner les châtiments corporels à l'école, finalement déclarés illégaux en 86, l'Angleterre s'interroge aujourd'hui sur le droit des nourrices à frapper ses chères têtes blondes. Si Anne Davis a estimé que le sens commun et la discipline avaient triomphé, de nombreuses associations de protection des droits des enfants ont-elles protesté contre cet encouragement à la violence? Ces mêmes associations ont en outre décidé de faire pression sur le gouvernement pour que le Parlement s'empare de l'affaire et bannisse tout usage de la force envers les mineurs dans les différents services sociaux. Allemagne, l'écrivaine Christa Wolf, après de longs mois de silence, vient de sortir un nouveau livre, une interview avec elle parue dans la Voz. Après l'effondrement de la RDA, les médias ouest-allemands n'ont pas raté une occasion pour démonter l'œuvre de Christa Wolf, figure emblème de l'intelligentsia de l'ex-RDA. Christa Wolf vient de fêter ses 65 ans et pour l'occasion s'adresse à nouveau au grand public en publiant un nouveau livre sur le chemin à tabou. Le livre est un recueil d'essais, de discours et de notes. Dans l'interview donnée à La Voz, Christa Wolf estime que la littérature doit pouvoir articuler ce que ni la politique ni les partis n'arrivent à articuler. Selon elle, ceci ne peut être fait que si chaque auteur parle sans se protéger de ses propres expériences. C'est là aussi le but de son nouveau livre, qui est une sorte de chronique des dernières années, vu comme processus intérieur et extérieur. Il est vrai, continue-t-elle donc dans cette interview que j'essaye de traduire, qu'après les événements de 89, il y a eu des semaines entières où je n'ai pas été capable d'écrire. Ceci était en relation avec, comme elle appelle ça, un démontage total de la conscience de moi. Je suis une personne sur laquelle on a pu projeter beaucoup de choses, des immenses attentes, mais comme des déceptions profondes, jusqu'à de la haine. Ceci a été très difficile à supporter. Et quand ça se passe dans un moment de crise, on n'est plus capable de parler, de commenter ces critiques. J'ai eu besoin de temps pour retrouver ma liberté intérieure, pour me dire, bon, ça m'est égal ce que me reprochent les autres. Il s'agit pour moi de réfléchir comment je ressens les choses, les événements. Il est important pour moi, continue-t-elle, de renforcer la conscience de soi, ce qui veut dire de parler aussi des émotions et de l'inconscient. Il s'agit pour moi de m'affronter à mes questions critiques. Quant à la situation des femmes en Allemagne et la proposition d'organisation de femmes de lancer une grève des femmes lors de la Journée internationale des femmes, voici ce qu'en dit Christa Wolf. D'abord, je n'étais pas d'accord d'appeler à la grève des femmes. Je pensais alors qu'on ne pouvait pas demander aux femmes d'ex-RDA de faire la grève alors qu'elles avaient tant de peine à trouver du travail et que la grève pouvait encore menacer le peu de postes de travail disponibles. Quand j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de faire grève, j'ai appelé les femmes à protester contre la dégradation de leur situation dans leur lieu de travail d'une manière qui leur convenait. Les femmes sont les perdantes de l'unité allemande. Ça me fait mal de voir où elles en sont arrivées et ce que la situation difficile les a amenées à faire, de se faire stériliser et de refuser de devenir mère. Les femmes en RDA n'avaient peut-être pas une conscience politique élevée, mais elles avaient une position économique élevée, ce qui leur permettait d'avoir des comportements différents. Christa Wolf conclut concernant les femmes, les organisations féminines aujourd'hui devraient agir de telle manière pour que la conscience des femmes ne soit pas uniquement liée à leur situation économique, ce qui est actuellement extrêmement difficile car dans notre société allemande unie, l'économique définit le social. Amnesty International exige des meilleures mesures de protection pour les femmes persécutées. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, Amnesty International salue la décision de l'ONU de nommer une ou un rapporteur spécial pour les actes de violence dirigés contre les femmes dans le monde entier. En même temps, l'organisation publie un bilan des violations des droits de la personne perpétrées à l'encontre des femmes dans le monde entier. Ce rapport souligne la menace qui pèse plus particulièrement sur les femmes dans la guerre civile afghane. Des groupes de mujahidines s'attaquent aux femmes qui ont fait des études ou qui ont une profession, car selon eux, elles se sont détournées des principes de l'islam. Des centaines de femmes ont dû s'exiler pour fuir la torture et les mauvais traitements. Le rapport souligne aussi que dans les années 90, des millions de personnes ont dû s'exiler et sont devenues des réfugiés, et que la plupart des réfugiés sont en fait des femmes qui sont vulnérables aux agressions sexuelles et viols. Ainsi, pour obtenir des documents ou des vivres, elles sont souvent forcées à des faveurs d'ordre sexuel. Amnesty International rappelle que les viols sont systématiquement perpétrés par les soldats ou groupes paramilitaires lors de guerres civiles, et qu'en Bosnie, toutes les parties impliquées dans le conflit ont utilisé cette arme. En France, une nouvelle politique de la famille proposée par Simone Veil, ministre des Affaires sociales. Simone Veil, ministre des Affaires sociales, a présenté son projet de loi sur la politique familiale qui sera discuté à la prochaine session parlementaire. Voici ses propositions. Élargissement de l'allocation parentale d'éducation qu'on appelle APE. Actuellement, la prestation n'est accordée qu'à la naissance d'un troisième enfant et le parent concerné doit avoir travaillé au moins 2 ans dans les 10 années qui précèdent la naissance. Le projet prévoit que l'APE sera étendue à la naissance d'un deuxième enfant, mais il faudra avoir travaillé au moins 2 ans pendant les 5 années qui précèdent la naissance. Enfin, une APE à taux partiel serait ouverte aux ménages où l'un des deux parents travaille à temps partiel. Deuxième proposition, extension du congé parental d'éducation. Ce congé, qui garantit au salarié de retrouver son emploi au terme de sa mise en disponibilité ou qui lui permet de demander à travailler à temps partiel, sera généralisé. Autre proposition, 100 000 places supplémentaires dans les crèches et l'hausse des aides pour l'emploi d'une assistante maternelle. Enfin, prolongation des allocations familiales jusqu'à 22 ans. En plus, Simone Veil proposera aux fonctionnaires qui souhaitent s'occuper de leurs enfants de moins de 3 ans un mi-temps de plein droit. On reste en France où François Mitterrand annonce à l'occasion toujours de la Journée internationale de la femme le transfert de Marie Curie, donc de ses cendres, la première femme au Panthéon. Voici un commentaire de ce geste par 2 sociologues et journalistes, Françoise Gaspard et Claude Servan-Schreiber, qui sont aussi auteurs de « Au pouvoir citoyenne ». Au regard des difficultés que donc ces commentaires que je vais vous lire sont parus dans Libé d'aujourd'hui. Au regard des difficultés que connaissent aujourd'hui nombre de femmes, l'installation d'une poignée de cendres au cœur d'un mausolée glacé peut paraître de peu d'importance, sauf si l'on sait la valeur des symboles. Celui qu'évoque le Panthéon, justement, n'a rien de secondaire. Il met en lumière non seulement l'exclusion des femmes de la sphère publique, il illustre surtout, et jusqu'à la caricature, le vice fondamental de notre système politique, la non-reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes comme fondement des institutions et du droit, comme exigence aussi de la mémoire collective. Des femmes protestent depuis longtemps déjà contre le scandale d'un panthéon de la République exclusivement masculin. À qui fera-t-on croire que depuis 2 siècles, des hommes et seulement des hommes sont dignes de la reconnaissance de la patrie? Récemment encore, la décision de transférer au Panthéon, en grande pompe, quelques restes illustres a confirmé le parti pris, ô combien enraciné, de réserver cet honneur à des hommes. Jean Moulin, mais pas Bertie Albrecht. Jean Monnet, mais pas Louise Weiss. Condorcet, mais pas Olympe de Gouges. Une historienne, Catherine Maran-Fouquet, avait au moment du bicentenaire de la Révolution saisi l'Élysée d'une demande pour que la guillotinée de 1793 trouve place aux côtés de l'auteur de l'admirable article sur l'admission des femmes aux droits de cité. Olympe avait tous les titres nécessaires, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, bien sûr, mais aussi son combat contre la corruption, tragiquement d'actualité. En 1992, le président recevait un nouveau courrier, lui demandant pour le bicentenaire, cette fois-ci de la République, de réparer l'injustice. L'entrée de 3 femmes au Panthéon eut donné de l'éclat à la participation des femmes au système démocratique. Mais le président de la République n'a pas répondu. Ce que le président de la République semble ignorer, c'est que les femmes sont nombreuses à ne plus se laisser duper. Jamais contentes, dira-t-on. Non. Ce qui fait problème, c'est qu'une femme au Panthéon, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez, ce n'est pas du tout assez. Au fronton du mausolée, lira-t-on désormais « aux grands hommes et à une femme, la patrie reconnaissante ». Donc, si sa famille accepte l'offre de François Mitterrand, Marie Curie entrera au Panthéon. La solitude de son élévation n'enlèvera rien au mérite de sa personne, cela va de soi, ni à la petite satisfaction d'amour-propre que les femmes pourront ressentir à cette occasion. Mais faut-il s'en tenir là? Il est encore temps d'aller plus loin et de mieux faire. Flora Tristan, Georges Sand, Louise Michel, Hubertine Auclert, Marie Derem, tant et tant d'autres attendent dans l'ombre qu'on les donne en exemple aux générations nouvelles. Les nouvelles de la Suisse maintenant. Le Conseil national a approuvé la loi sur l'égalité hommes-femmes. Les femmes ne sont plus seules pour se défendre. Les organisations syndicales et féminines pourront plus facilement s'adresser aux juges pour faire constater une discrimination. Qualité pour agir au nom des personnes dont ils défendent les intérêts reconnus aux syndicats et organisations féminines. Allègement du fardeau de la preuve au profit de la personne lésée dans un litige qui porte le salaire uniquement. Renforcement du statut du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Ce sont là 3 points qui marquent un progrès pour les femmes sur le chemin de l'égalité. 3 points de la loi fédérale sur l'égalité qui ont passé la rampe au Conseil national. Non sans de vifs affrontements entre une gauche qui aurait voulu aller plus loin dans la promotion des droits des femmes et une droite qui entendait contenir cette évolution dans des limites qui ne nuiraient pas à la capacité économique de la Suisse. Le thème le plus chaud du débat a été sans conteste la qualité pour agir conférée aux organisations syndicales et féminines pour défendre les intérêts des personnes victimes d'une discrimination sans exiger qu'elles y consentent expressément. Tentative de récupération des femmes pour la lutte syndicale, aux yeux de Suzette Sandeau. Inadmissible ingérence dans la sphère privée pour le radical argovien Lucy Stamm. Instrument indispensable, au contraire, affirme la socialiste vaudoise Francine Jean-Pêtre, pour combattre l'isolement, voire l'ostracisme d'une travailleuse lésée et vulnérable. L'allègement du fardeau de la preuve pour en tant que la personne lésée rende sa discrimination vraisemblable et qu'il ne porte que sur des litiges relatifs au salaire a aussi passé la rampe. En fin de compte, le Bureau fédéral de l'égalité dépendra maintenant directement du département fédéral de l'intérieur alors qu'il est placé encore sous la houlette de l'Office fédéral de la culture. Et des programmes pilotes d'actions positives en faveur des femmes pourront être encouragés par la manne fédérale. Les femmes socialistes et écologistes ont tenu à afficher leur déception face à une loi, je cite, « qui a perdu trop de son mordant ». La protection contre les discriminations étant trop limitée pour elles et la solution apportée à la répression du harcèlement sexuel insatisfaisante. Saint-Gall, donc toujours en Suisse, la bibliothèque des femmes qui s'appelle Viborada fête ses 7 ans. Dans cette ville, il existe un lieu où des milliers de femmes ont des choses à nous dire. C'est par ce slogan que la bibliothèque des femmes de Saint-Gall se présente dans un dépliant publié à l'occasion de ses 7 ans, l'âge de raison. Viborada a ouvert ses portes en février 87 et a rangé ses milliers de livres dans un local qui était auparavant une petite boulangerie de quartier. On y trouve des livres, des revues, des journaux, de la documentation, des tracts, des articles sur des thèmes tels que l'histoire des femmes en Suisse orientale, les mouvements sociaux et politiques, des livres sur les critiques sociales, corps et âme, art et culture, femmes d'autres cultures, théories et pratiques féministes. La fonction de cette bibliothèque est de faciliter, je cite donc toujours ce fascicule, est de faciliter et de développer l'accès à la littérature et à la théorie féministe. Elle coopère avec les réseaux des femmes de la région, les bibliothèques et archives de femmes de langue allemande, bien que j'ai vu dans la bibliothèque, la bibliothèque avait toute la collection de la revue Femmes Suisses, donc qui est en français. D'où vient le nom de Viborada? Viborada était une nonne qui vivait à Saint-Gall autour de 900 et chez qui on allait chercher conseil. Enfermée dans une tour qui n'était liée au monde que par une fenêtre, elle a passé de nombreuses années de sa vie en ascète, en priant et en étudiant les saintes écritures. Grâce à ses dons visionnaires, elle a prévu l'attaque du cloître de Saint-Gall et sur ses conseils, le trésor du cloître, composé de nombreux livres et manuscrits précieux, a pu être sauvé. Depuis, elle est devenue la protectrice des bibliothèques. Mais, se demandent les femmes de Viborada, donc de la bibliothèque, qu'avons-nous en commun avec cette nonne pieuse, ascète et visionnaire? 1000 années nous séparent d'elle, comme le fait d'être enfermée et aliénée de notre corps. Aussi, la sauvegarde du patrimoine culturel des hommes ne semble pas être notre idéal et en ce qui concerne l'e-vision, nous avons nos propres. Néanmoins, la bibliothèque de femmes se veut un lieu où l'on peut trouver le savoir des femmes et chercher conseils et où de nouvelles visions peuvent se développer. C'est ainsi que nous nous référons à Viborada. Samedi dernier, donc, Viborada a fêté ses 7 ans à Saint-Gall en organisant un énorme concert avec d'abord, j'y étais, magnifique, 2 femmes jouant le cor des Alpes, suivie par un groupe de musiciennes de rock, Domina Dia, avec la chanteuse rock Magda Fogel. C'était une belle fête où plus de 100 femmes venant d'horizons divers, lesbiennes, des femmes engagées dans la politique, des syndicalistes, des étudiantes, toutes usagères de la bibliothèque ont dansé au rythme d'enfer de Domina Dia. Et une dernière nouvelle de Genève, les Verts ont élu Fabienne Bunion présidente. Les écologistes ont élu Fabienne Bunion à la tête de leur parti. La future conseillère nationale remplacera donc Paul-Olivier Valoton. Les autres membres du comité, donc des Verts, sont composés de deux autres femmes, Elisabeth Lalive et Catherine Rapp, et de 5 hommes. Donc c'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Restez à l'écoute, un peu de musique avant de passer le micro à Marjolaine qui nous a préparé des interviews et plein d'idées pour sortir par ce printemps merveilleux.
keep on loving. Things in life.